Éclairage sur les prochaines élections européennes qui ont lieu ce dimanche 26 mai. On est avec Paul Masson, qui est militant de l'éducation populaire. Ça fait 30 ans, même plus, Paul, que tu animes des formations sur les questions politiques, questions européennes. Et tu es aussi adhérent de Attac Artois Ternois. Alors, justement, pour parler de cette association citoyenne, Attac, c'est une association qui est née sur l'idée de, enfin, la volonté de mettre en place la taxe Tobin, une association de critique du néolibéralisme à l'échelle globale et européenne aussi. Paul.
Effectivement, Attac se crée en 1998 avec la constatation que les finances ont pris la place du politique. Et avec la revendication de dire qu'il y a nécessité que les citoyens se ressaisissent de leur pouvoir politique qui leur a été confisqué. Et la première revendication d'Attac, qu'on retrouve dans le titre, Association pour la taxation des transactions financières. L'idée, il y a nécessité que les finances soient au service de l'économie et pas au service de la spéculation. Le constat de ça, c'est de dire... Progressivement, les marchés financiers ont pris les commandes du politique. Seule une action citoyenne peut redonner le pouvoir aux citoyens.
Attac et l'Europe, c'est une longue histoire aussi.
Alors, Attac et l'Europe, dès le départ, la question c'est comment se positionne l'Europe par rapport à ce néolibéralisme qui s'est imposé dans les années 80-90 autour de Thatcher et Reagan. L'action forte concernant l'Europe d'Attac, ça a été à l'occasion du traité constitutionnel européen en 2005. À l'occasion de ce traité constitutionnel, de ce référendum qui nous est demandé, Attac va jouer un rôle énorme dans chercher à faire comprendre le traité, c'était 500 pages, hein, à faire comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ce traité, et de faire apparaître que ce traité inscrivait dans les textes des choix politiques, ceux du néolibéralisme. Qu'est-ce que ce traité entendait constitutionnaliser? C'est de faire en sorte que le marché libre et non faussé soit le régulateur politique de tout. À la limite, le marché remplace les gens que vous élisez. La concurrence libre et non faussée que les États mettent en place, que les États favorisent, sera la loi supérieure aux autres lois. Ça sera une sorte de superstructure. Et on retrouve ça dans le traité constitutionnel européen qui sera rejeté en France, mais qui sera repris sous le nom du traité de Lisbonne. Autre aspect de ce traité, c'est faire en sorte que les États soient sous le contrôle des banques, avec une banque centrale européenne indépendante des États et qui n'a pas de compte à leur rendre. C'est écrit dans les traités. La seule fonction qui est donnée à cette banque centrale européenne, c'est de limiter l'inflation. Il ne s'agit plus de relancer l'économie, il ne s'agit pas de limiter le chômage. Ce qu'on lui demande, c'est ça. Et elle n'a pas de compte à rendre aux États. Voilà ce que les traités européens ont mis en place. Ça se fait en 2005, mais si c'est proposé en 2005, c'est parce qu'en 2000, les États ont adopté au Conseil européen de mars 2000, ce qu'on a appelé la stratégie de Lisbonne. Alors, en 2000, en France, c'est Chirac qui est président de la République et c'est Jospin qui est Premier ministre. On atteint une période de cohabitation, c'est-à-dire que la stratégie de Lisbonne adoptée au Conseil européen pour la France, elle est signée par Chirac et par Jospin, c'est-à-dire par la droite et par la gauche socialiste. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette stratégie de Lisbonne? Elle fixe 28 objectifs à atteindre par chaque gouvernement dans les 25 pays. 28 objectifs qu'elle se donne. Elle ne se donne pas de limite de temps pour ses objectifs, puisqu'on est dans des orientations, chaque pays est chargé de les mettre en œuvre progressivement. Les élections qui ont lieu maintenant ont lieu 20 ans après. Alors quand même, dans ces 28 orientations, il y en a quand même, j'en ai sélectionné qui permettent bien de comprendre cette politique européenne qui a été fixée en termes d'orientation. Accélérer la libéralisation des services publics tels que le gaz, l'électricité, les services postaux, les transports. Faire en sorte qu'on ait des entreprises privées qui puissent venir s'inscrire dans les besoins de services. Les services seront vendus. On n'aura plus un État qui sera chargé de faire en sorte que les populations aient le service. On aura des marchands qui viendront se positionner sur le service. Élimination de l'entrave au service. Alors ça, c'est très, très important parce que l'entrave au service, c'est-à-dire, par exemple, la sécurité sociale est une entrave au service que pourraient rendre les sociétés d'assurance. Donc, si on veut que les sociétés d'assurance s'inscrivent dans le marché, eh bien, il faut faire en sorte que la sécurité sociale ne réponde pas aux besoins des populations. Et on verra progressivement que la sécurité sociale, sous couvert de l'équilibre de la sécurité sociale, rembourse de moins en moins de choses, de manière à ce que les gens soient amenés à s'adresser au marché privé pour s'assurer. Moderniser la protection sociale, notamment en supprimant les obstacles à l'investissement des fonds de pension. Alors ça, très concrètement, ça a été tout ce combat concernant les retraites. En France, on a droit à la retraite lié au fait qu'on ait travaillé. L'idée de l'Europe, c'est que ce droit à une retraite parce qu'on a travaillé soit remis en cause. Le droit à la retraite, on l'aurait parce qu'on aura épargné. C'est-à-dire celui qui peut épargner aura droit à une retraite, celui qui ne peut pas épargner n'aura pas droit à une retraite. C'est tout ce combat sur les retraites qu'on voit bien, en 20 ans, on voit bien comme ça s'est mis en place. Autre objectif, réduire le niveau général des aides d'État. Là, c'est explicite, il n'y a pas besoin de... Il ne faut plus que l'État assure une protection sociale. Et réduire la pression fiscale sur le travail. C'est les lois CNE, CPE, la loi El Khomri. Il s'agit de faire en sorte que les entreprises payent moins pour le travail, de manière à disposer de davantage de revenus pour les actionnaires et relever le niveau de l'emploi. Alors là, très concrètement, c'est retarder l'âge de départ à la retraite. Parmi les objectifs qui étaient fixés, c'était 67 ans. Vous voyez bien qu'il y a une stratégie. Vous voyez aussi que cette stratégie-là, si elle est mise à jour, et si c'est annoncé très clairement, d'une manière explicite, eh bien ça va provoquer des réactions énormes. Donc on va avoir ce que Suzanne George parle, la stratégie de Dracula, c'est-à-dire d'avancer dans le noir et ne pas annoncer ce qu'on veut faire. Le parti présidentiel qui se présente comme étant le premier parti, il y a 15 jours qu'il a sorti son programme. Il ne va pas annoncer ce qu'il va faire.
Alors là, on est à la veille des élections européennes, dans une situation où on a l'impression qu'il y a un éloignement entre la ligne néolibérale que tu décrivais et puis les aspirations d'une partie de plus en plus importante des citoyens.
Voilà. Et alors, parmi les choses qu'on voit, c'est les choses qui sont dites et qui apparaissent à l'occasion de ça, c'est les politiques, on ne peut pas leur faire confiance, ils sont tous pourris et ils font tous la même chose. Effectivement, si on regarde depuis cette stratégie de Lisbonne, on avait Chirac et Jospin qui l'ont signé en 2000, après on va avoir Sarkozy, après on va avoir Hollande, maintenant on a Macron, et c'est la même politique qui est conduite dans ses orientations, c'est la même orientation politique, c'est pas les mêmes politiques, mais c'est la même orientation politique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on va constater, c'est de dire c'est la montée de l'extrême droite. Alors, c'est pourquoi il y a un des aspects, c'est de dire l'Europe ne nous protège plus, elle ne joue plus par rapport à nous, et replions-nous dans chaque État, et comme ça, chaque État pourra faire la politique qu'il veut. Ces éléments-là, ça va être la manière dont les populations qui ne connaissent pas dans le détail les traités, qui n'ont pas connaissance, qui n'ont pas saisi les enjeux stratégiques du néolibéralisme, disent « Nous, on a toujours besoin de protection sociale. On n'est pas pour casser la sécurité sociale. » Les services publics, avec les gilets jaunes, c'est un des éléments qui est apparu. Concernant les transports, concernant l'énergie, on en a besoin. Le pouvoir d'achat, de dire qu'il ne faut pas distribuer de revenus aux plus faibles, eh ben, on en a besoin. Et on ne tient pas compte de ce qu'on dit, puisqu'on peut bien dire ce qu'on veut, qu'on mette l'un ou qu'on mette l'autre, on a la même politique. Donc, par rapport à ça, c'est ce qui provoque ce mouvement de révolte par rapport à l'Europe. Et autre élément important, alors qui se développe fort, et au niveau de la campagne, vous avez personne qui vous dira que l'écologie, c'est le dernier de leurs soucis. Mais si on veut sauver la planète, comment qu'on va faire si on décide dans les traités, ce qui est le cas, que les États ne peuvent pas dépasser un déficit de 3% si c'est écrit dans les traités. Comment qu'on va faire les investissements nécessaires ? Comment qu'on va faire pour sauver la planète si tous les objectifs, c'est de passer des marchés internationaux, ça a été le TAFTA, ça a été l'accord avec le Canada, c'est avec le Japon, avec l'Australie. On ne peut pas sauver la planète en faisant en sorte que le bœuf d'Australie et le bœuf français soient sur le même marché et que tout le monde, que ce soit la concurrence entre les marchés qui régulera le monde.
Je ne suis pas une communiste, je ne suis pas une cycliste. Je ne suis pas une catholique, je ne suis pas une footballiste. Allez, allez, circulez, allez ton cul, le PD. J'aime les femmes et j'aime les garçons, comme j'ai déjà dit, j'aime les zizis. Vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens.
On est toujours avec Paul Masson, adhérent d'Attaque Artois, militant de l'éducation populaire. Il nous propose un éclairage sur les élections européennes. Alors, dans ces élections en France, il y a 34 listes candidates, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu nous proposes une lecture avec trois grands pôles dans lesquels ces candidatures peuvent s'inscrire.
Voilà. Oui, ce que je propose effectivement, c'est trois pôles et en même temps des axes entre ces pôles. Les 34 candidats, les 34 listes ne sont pas situées dans un des pôles. Elles sont plus ou moins situées dans un des pôles, mais après, il y a des nuances et des passages entre l'une et l'autre. Un des grands pôles, ça va être ce que les grands médias appellent les pro-européens. Alors, les pro-européens, en gros, c'est le pôle qui est favorable à l'Union européenne existante. En gros, ce pôle dit « Les traités, ils sont ce qu'ils sont, mais ils nous vont. » La stratégie de Lisbonne, c'est là-dedans qu'on s'est inscrit, et dans le cadre de la mondialisation, c'est la bonne stratégie si on veut que nos entreprises fassent du profit. Donc, ce grand pôle, c'est celui qui dirige l'Europe actuellement. On y retrouve à la fois par des jeux d'alliance, le Parti populaire européen, le Parti socialiste européen, l'ADLE et le DM. Alors concrètement, parce que les partis européens ils sont tellement peu connus que faut qu'on les explique, le PPE, c'est le leader du PPE, c'est Merkel en Allemagne. En Hongrie, on va trouver Orban. L'alliance, on y retrouve aussi les, ce qu'on appelle les chrétiens européens, les conservateurs et réformistes, l'alliance des conservateurs et réformistes. Donc ça, on pourrait dire que c'est la droite européenne. L'autre parti, deuxième, jusqu'aux prochaines élections, aux prochaines élections, visiblement, les rapports vont être un peu modifiés, ça va être le PSE. Parti socialiste européen, qui est en gros les partis sociaux-démocrates et quelques alliés, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Par exemple, actuellement, puisque aux dernières élections, il n'y avait personne d'En Marche, puisque le parti n'existait pas, mais il y a un député qui était dans ce parti-là, qui est encore de En Marche. L'ADLE et le PDE, c'est les partis centristes. Le PDE, c'est Bayrou qui l'a créé. Et c'est ces partis-là qui gèrent cette Europe autour de ces politiques depuis 20 ans. L'avantage de En Marche, qui se présente comme hors parti, effectivement, il ne se situe pas dans un des trois. Il fait la synthèse des trois. Et à la question de dire, mais quand vous serez au Parlement européen, dans quel parti vous irez, chacun ira où il veut. Et ça n'a pas tellement d'importance dans le cadre des instances européennes d'être au PPE, PSE ou d'être dans les centristes, puisque c'est un système d'accord entre ces différentes formations. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle ne se positionne pas par rapport au marché mondial. Il se positionne en termes de stratégie. Il dit, si on veut être puissant, l'Union européenne existante devient un handicap parce que les États perdent leur autonomie. Et on va avoir un deuxième grand pôle qui, au niveau stratégie, dit qu'il y a nécessité de redonner du pouvoir aux États, en enlever à l'Europe et redonner aux États. Les positions les plus extrêmes, c'est le Brexit en Angleterre. On sort de l'Union européenne qui apparaît comme un handicap. Au niveau des élections sur les listes qui se présentent, il y a la liste de Philippot, un ex du Front National, qui s'appelle les Patriotes, et puis la liste de l'UPR de Asselineau qui disent il faut sortir de l'Europe. Donc ça, c'est la position la plus extrême. La majorité des autres partis, c'est de dire, il faut qu'on revienne à l'Europe des nations. C'est-à-dire que l'Europe ne fasse plus la loi, ce soit les nations qui se mettent d'accord à l'échelle européenne. Le plus clair là-dessus, c'est Dupont-Aignan avec Debout la France, qui dit clairement, il faut qu'on arrive à une Europe des États. Et les États se mettent d'accord sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas ensemble. C'est dans ce courant-là qu'on va retrouver aussi les partis d'extrême droite. Au niveau du Parlement européen, c'est l'Alliance européenne des mouvements nationaux et l'Alliance des nations et des libertés. La nuance des nations et des libertés, c'est le Rassemblement national, le FN chez nous, c'est la Ligue du Nord en Italie, c'est le Parti de la liberté d'Autriche qui vient de quitter le gouvernement, c'est la Nouvelle Droite en Pologne, et le parti indépendantiste du Royaume-Uni. Donc on a ce deuxième pôle qui dit stratégiquement, il faut que les États redeviennent maîtres chez eux.
Troisième et dernier pôle selon toi alors ?
Alors le troisième pôle dit, dans l'état actuel des traités, il n'est pas possible de conduire une politique alternative au néolibéralisme. Il y a nécessité, si on veut aller vers une transition écologique, et cette transition écologique, elle est indispensable, il y a nécessité que ce soit pas le marché libre et non faussé, toutes les entreprises à l'échelle mondiale soient mises en compétition, que quand on veut faire quelque chose chez soi, eh ben, toutes les autres entreprises du monde puissent venir se mettre en concurrence, ça ne permettra pas la transition écologique. Si on veut une politique sociale juste, si on veut une politique fiscale juste, ça ne peut pas être en mettant les lois sociales de chaque pays en compétition l'une par rapport à l'autre. Parce que si les lois sociales sont en compétition, eh ben les entreprises vont choisir d'aller dans le pays où on paye le moins les salariés. Elles vont choisir d'aller dans les pays où, au niveau fiscalité, c'est ce qui permettra aux plus riches d'éviter le plus au fisc. Et par rapport à ça, il y a l'idée, il faut aller vers le changement des traités et ne pas, en gagnant les élections, en gagnant une élection, ne pas les mettre en œuvre. Ça a été en Grèce où, qui a permis de conscientiser et qui illustre bien cette situation. La Grèce vote pour Tsipras. Et Tsipras, son programme, c'est de dire on arrête les politiques d'austérité et on passe à autre chose. La Grèce vote le dimanche, le lundi matin, la Banque Centrale Européenne intervient, avant même les chefs d'État gouvernement, bien sûr les députés européens, ils ne sont pas encore concernés, on ne leur en a pas parlé, que déjà la Banque Centrale Européenne dit à la Grèce qui vient de voter, si vous conduisez la politique que vous annoncez, nous, on coupe toutes les finances. C'est-à-dire que les traités donnent la possibilité aux banquiers de couper les finances des États. Donc, par rapport à ça, c'est ce qu'il fait dire, si on ne sort pas de ces traités, on ne pourra pas conduire une politique alternative au néolibéralisme. Voilà, en gros, les trois pôles dans lesquels s'inscrivent les différents candidats. On pourrait essayer de mettre chaque candidat par rapport à ces pôles ou dans des axes entre deux pôles.
Paul Masson, adhérent d'Attaque Artois, militant de l'éducation populaire. Retrouvez ce sujet en ligne sur le site radiopfm.com. Et puis on vous rappelle que les élections européennes, c'est ce dimanche 26 mai.
Putain, putain, c'est bon.